VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Eric Manirakidza en direct du studio 9 de la Voix de l'Amérique à Washington. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, la deuxième édition du 13 juin 2017. D'abord le sommaire. La chancelière allemande Angela Merkel appelle à un partenariat avec l'Afrique pour stopper l'immigration clandestine. Bamako, somme ses hauts fonctionnaires de déclarer leurs biens et justifier l'origine de leur fortune. Journée internationale de l'albinisme, les albinos sont traqués dans beaucoup de pays, mais plutôt bien traités au Niger.
L'albinisme, c'est un problème de peau et de vision. Pour la peau, il faut forcément consulter les personnes atteintes de l'albinisme chaque trimestre.
Le ministre américain de la Justice, Jeff Sessions, devant des sénateurs tout à l'heure pour s'expliquer sur ses liens présumés avec la Russie. Il y aura aussi l'économie et les sports, mais d'abord le journal. L'État malien lance une opération imposant aux fonctionnaires de déclarer leurs biens d'ici fin août. Des dizaines de milliers d'agents de l'administration sont aussi tenus de justifier leur patrimoine. Selon Mumumni Gendo, président de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, ces mesures s'inscrivent dans le cadre d'une lutte contre l'enrichissement illicite. Environ 55 000 fonctionnaires et contractuels sont concernés. En Centrafrique, les humanitaires attirent l'attention sur le danger qui les guette au quotidien. En visite de 3 jours à Bangui, le responsable humanitaire des Nations Unies a déclaré que c'est l'un des pays les plus risqués au monde pour les humanitaires. Les membres des grandes ONG et leurs personnels locaux sont pris dans le tourbillon des violences entre bandes armées ex-Séléka pro-musulmans et anti-Balaka pro-chrétiens qui déchirent le pays depuis 2013. Selon l'ONU, 6 travailleurs humanitaires sont morts en 2016. Médecins sans frontières, Oxfam, la Croix-Rouge, Action contre la faim déplorent aussi le sous-financement de leurs activités en faveur des sinistrés. Le conflit au Soudan du Sud et ses déplacements massifs des populations font régulièrement émerger des noms synonymes d'une grande détresse sur la carte. C'est par exemple à Bourok, un village du Nord-Est où les travailleurs humanitaires font face au dénuement le plus complet. Moins d'un mois plus tôt du sommet du G20, Angela Merkel a lancé un appel à investir en Afrique pour limiter les migrations vers l'Europe. À Berlin, la chancelière allemande a tenu une rencontre de 2 jours avec les leaders africains, n'est-ce pas, Yacouba Ouédraogo?
Angela Merkel, présidente du G20, appelle à un partenariat économique avec l'Afrique et à œuvrer à la paix et à la sécurité sur le continent. La dirigeante allemande estime que les responsables africains et les investisseurs doivent travailler à stimuler l'investissement privé. C'est ce que le G20 a baptisé « Compact with Africa ». L'Allemagne a annoncé 300 millions d'euros d'aide aux pays soucieux de lutter contre la corruption afin d'attirer les investissements et de créer des emplois. Pour l'ONG One, l'initiative allemande dans le cadre du G20 est à saluer, ajoutant que les propositions faites sont insuffisantes et trop tournées vers l'investissement privé. Des opposants à la mondialisation y voient une nouvelle tentative pour mettre la main sur les ressources africaines. Seule l'Afrique du Sud fait partie du G20. Selon un rapport de l'ONG One, d'ici 50 ans, le continent africain comptera plus de jeunes que l'ensemble des pays du G20 réunis.
Au Kenya, au moins 5 personnes sont portées disparues à la suite de l'effondrement d'un immeuble de 7 étages la nuit dernière à Nairobi. De nombreux édifices des quartiers populaires ont été construits au mépris de toutes les règles. Les précisions avec Ekia Badou.
Au moins 4 personnes sont portées disparues à la suite de l'effondrement d'un immeuble de 7 étages à Nairobi. Ce drame s'est déroulé à Kwer Paplan en Bakassi, non loin de l'aéroport où de nombreux édifices de ces quartiers populaires ont été construits au mépris de règles de sécurité. Selon la Croix-Rouge, la police et des témoins, des habitants ont alerté les autorités lundi soir après avoir constaté l'apparition de fissures. Une opération d'évacuation d'urgence a alors été organisée avant que l'immeuble ne s'écroule. 128 locataires sont sains et saufs. D'autres familles pourraient être piégées et les opérations de secours sont en cours. Selon le quotidien The Star, citant la ville de Nairobi, la construction de l'immeuble en 2007 n'avait pas été approuvée. La police est d'ailleurs à la recherche du propriétaire. Plusieurs bâtiments se sont effondrés ces dernières années à Nairobi et dans d'autres villes du Kenya, en plein boom immobilier.
et Kia Badou. Suspension aujourd'hui en Zambie d'une cinquantaine de députés de l'opposition pour avoir boudé un discours du président Edgar Lungu. Ces élus du Parti Uni pour le Développement National ne seront pas autorisés à entrer au Parlement pendant 30 jours et ne recevront pas leur salaire le temps de leur suspension. Le président du Parlement, Patrick Matabini, veut qu'ils reconnaissent la légitimité du chef de l'État. Leur leader, Hakainde Hichilema, attend l'ouverture de son procès devant la haute cour de Lusaka depuis avril dernier. Il est accusé d'entrave au déplacement d'un convoi du président et risque 15 ans de prison. En Angola, l'avocat de 5 musulmans placés en détention préventive depuis décembre a dénoncé à leur incarcération jugée arbitraire. Ils sont placés en résidence surveillée et sont accusés d'avoir juré fidélité à l'organisation État islamique. Selon le parquet, ce groupe faisait du prosélytisme dans les rues et sur les réseaux sociaux et préparait même un attentat. Notre objectif était d'évangéliser, de diffuser la foi islamique sans aucune incitation à la violence, s'est défendu un des accusés. En Afrique du Sud, le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, a sanctionné son ex-chef Hélène Zille, dont les tweets sur les aspects positifs du colonialisme ont suscité la controverse sur les réseaux sociaux. Madame Zille a été exclue de toute fonction exécutive au sein de l'ADA, mais conservait toutefois son poste de premier ministre de la province du Cap Occidental. Une commission parlementaire égyptienne a approuvé aujourd'hui un accord controversé de rétrocession de deux îles de la mer Rouge à l'Arabie Saoudite en avril 2016. Les autorités au Maroc ont annulé une émission en arabe de France 24 faute d'autorisation de tournage dans le pays. L'émission était consacrée au mouvement de contestation populaire dans le nord du pays.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, Jeff Sessions, ministre américain de la Justice, sera auditionné tout à l'heure par la commission du renseignement du Sénat. Il doit répondre aux questions des sénateurs sur ses rencontres avec l'ambassadeur russe aux États-Unis, Solange Niamouris.
Jeff Sessions n'avait pas dit, lors de son audition de confirmation au Sénat en janvier, qu'il avait rencontré deux fois en 2016 Sergueï Kislyak, ambassadeur russe à Washington. Après la révélation de ces rencontres en mars, Jeff Sessions s'était récusé de l'enquête sur l'interférence russe menée par le FBI qui est sous son autorité. Jeff Sessions a signé en mai une lettre recommandant au président Trump de limoger James Comey, à l'époque patron de la police fédérale. Mais si Comey est déjà passé devant la même commission sénatoriale et Jeff Sessions, ancien sénateur républicain de l'Alabama, ne pourra pas compter sur la bienveillance de ses anciens collègues.
Solange Niamouris, le ministre saoudien des Affaires étrangères Adel Al-Jubeir a réaffirmé que l'Arabie saoudite n'imposait pas un blocus au Qatar malgré la fermeture de sa frontière terrestre et l'embargo aérien visant les compagnies qataries. En visite à Washington pour s'entretenir avec le chef de la diplomatie américaine Rex Tillerson, il a déclaré que les ports et les aéroports sont ouverts. Cependant, M. Tillerson, qui avait appelé la semaine dernière à alléger l'embargo, est resté silencieux à ses côtés. La justice russe a commencé aujourd'hui à condamner les partisans de l'opposant Alexei Navalny au lendemain d'une journée de mobilisation marquée par plus de 1700 arrestations et jugées dangereuses par le Kremlin. Monsieur Navalny a écopé lui-même de 30 jours de détention. Tatiana Mousseau.
Les enfants de Poutine, ces lycéens et étudiants nés au moment de l'arrivée au pouvoir du président russe il y a 17 ans, ont confirmé leur mobilisation malgré les condamnations dont ils ont fait l'objet après les manifestations du 26 mars. La police a interpellé au moins 1500 personnes, la plupart à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Elles ont commencé à comparaître devant la justice et risquent jusqu'à 15 jours de prison, une peine qui peut être alourdie s'ils sont reconnus coupables de violences contre les forces de l'ordre. L'opposant Alexei Navalny avait appelé lundi des milliers de Russes à descendre dans les rues de plusieurs villes du pays. Le blogueur anticorruption espère défier Vladimir Poutine lors de la présidentielle de mars prochain. Il a été arrêté dès la sortie de son immeuble et a été condamné à 30 jours de détention. Le Kremlin a jugé mardi dangereuse la tenue de ces manifestations de provocation organisées par un groupe de provocateurs. Toutefois, il est trop tôt pour dire si toutes ces manifestations s'inscrivent dans la durée, d'autant que l'immense majorité des Russes considèrent Vladimir Poutine comme le garant de la stabilité.
Tatiana Mosso. L'utilisation d'armes chimiques en Syrie par le groupe État islamique s'est fortement réduite cette année. C'est ce qu'a affirmé le service d'analyse des conflits de la société d'expertise américaine IHS. En Allemagne, 6 jeunes réfugiés et demandeurs d'asile, 5 Syriens libyens ont été condamnés à des peines fermes ou avec sursis pour avoir tenté de mettre le feu à un sans-abri dans le métro berlinois à Noël. Après votre journal, suivez la chronique de la Muniteco dans votre actualité économique ce soir. C'est le moment de suivre votre chronique de la Muniteco.
Démission aujourd'hui du président du conseil d'administration d'Eskom, la compagnie nationale d'électricité sud-africaine. Le départ de Ben Goubane survient après la suspension le mois dernier du directeur général de l'entreprise, Machela Koko, en raison d'une enquête sur des allégations de trafic d'influence. Eskom est régulièrement mise en cause dans des affaires de corruption, les dernières impliquant la riche famille Gupta, proche du président Jacob Zuma. La multinationale Siemens, spécialisée dans les hautes technologies et présente dans les secteurs de l'industrie, de l'énergie et de la santé, annonce l'ouverture en octobre prochain d'une filiale à Abidjan. Un mémorandum d'entente a été signé entre le groupe et le gouvernement ivoirien. Le projet fait suite à une rencontre à Berlin entre le président Alassane Ouattara et le patron de Siemens, Joe Kaiser, en marge du sommet du G20 sur l'Afrique. L'Afrique, représentée pour la première fois au Salon européen de l'immobilier CIEC du 21 au 22 juin à Paris, le pavillon africain présentera les opportunités de développement offertes par le continent. Le Congo-Brazzaville et le Sénégal y seront représentés par des délégations officielles. L'événement, qui accueille chaque année 4500 acteurs de l'immobilier commercial, vise à faciliter des relations d'affaires et des partenariats concrets.
C'était la Muniteco de Jacques Aristide. Et sans transition, nous passons au sport ce soir. Bagassi Koura, bonsoir.
Oui, bonsoir Eric, bonsoir à tous.
On commence par le basketball. La NBA a un champion 2017.
Oui, il s'agit de Golden State qui a pris sa revanche sur Cleveland qui l'avait battu en finale en 2016 en remportant notamment hier soir pour la deuxième fois en trois ans le titre de champion NBA. C'était à Oakland en Californie. Les Warriors ont décroché cette quatrième victoire décisive dans leur salle 129-120 et se sont imposés 4-1. Analyse avec Eugène Pewa-Pelema, il est ancien capitaine des Fauves de Centrafrique.
Sur l'ensemble, une meilleure défense de Golden State. Donc, au basket, c'est pas l'attaque qui gagne, mais la défense. Et celui qui joue la meilleure défense et qui fait rater le plus de à l'autre, qui évite de perdre des ballons et qui fait des rebonds et ainsi de suite. Tout l'ensemble de ces choses-là permet de gagner. Et à ce jeu-là, Golden State a eu le dessus.
Alors, il y a deux ans, tout le monde parlait de Steph Curry, mais cette fois-ci, c'est Kevin Durant qui a pu s'imposer.
Tout à fait. C'est en fait Kevin Durant a été le plus qui a permis de l'emporter. Si Kevin Durant n'avait pas été là, je pense pas qu'ils auraient pu battre Cleveland. Mais Kevin Durant, du haut de ses 2m10, est très difficile à défendre. C'est un shooter à 3 points. Il tire de très très loin, non seulement, et il est très adroit et très mobile pour sa taille.
Football maintenant, Pékin rend hommage à Cheikh Tiote.
Oui, la mémoire de Cheikh Tiote, l'international ivoirien, décédé subitement la semaine dernière à l'âge de 30 ans lors d'un entraînement avec son club de Beijing Enterprises, deuxième division chinoise, a été honoré ce mardi lors d'un service funèbre organisé à Pékin. Tiote, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2015 avec les éléphants, avait été transféré en Chine en février. Après avoir porté pendant 7 ans le maillot de Newcastle en Ligue 1 anglaise.
Nouveau coup de sifflet de la justice espagnole dans le monde du football, Bagassi.
Oui, et cette fois-ci, c'est Cristiano Ronaldo qui est visé par des poursuites pour une fraude fiscale présumée à hauteur de 14,7 millions d'euros. Comme pour Messi, le nœud de l'affaire concerne les droits à l'image, ces copieux revenus liés aux contrats publicitaires que les footballeurs sont parfois tentés de percevoir via des sociétés à l'étranger. S'il venait à être condamné, Ronaldo risquerait 1 à 5 ans de prison.
Selon le quotidien El País. Merci Bagassi.
Oui, merci Eric et bonne soirée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Eric Manirakiza, en direct du studio 9 de la Voix de l'Amérique à Washington, pour aborder la seconde partie de votre édition. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'albinisme. Cette maladie continue d'être mal comprise à travers le monde et les albinos sont souvent victimes de maltraitance. Notre correspondant au Niger, Abdoulaye Zack Idrissa, s'est intéressé à la situation des albinos dans ce pays. Suivez son reportage.
Malgré le caractère mystérieux qui est souvent attribué à la maladie dont elle souffre, la présidente de l'Association nationale des albinos du Niger est bien acceptée dans son milieu de travail.
Je suis juste de formation, je travaille coincé d'État en tant qu'auditeur de justice.
Madame Abdou Ramatou Daouda est la greffière en chef du Conseil d'État du Niger.
La collaboration est très franche, nous sommes vraiment satisfaits d'elle. Son handicap n'a rien entamé au déroulement normal de ses activités. Et puis elle est intégrée. Elle n'est pas victime de discrimination ici. Et socialement aussi, c'est quelqu'un de très bien. Je dois le souligner.
Les albinos au Niger sont donc relativement tolérés par la société. Ce qui leur manque, en revanche, c'est un système formel de prise en charge, explique Khadija Moumouni.
L'albinisme, c'est un problème de peau et de vision. Pour la peau, il faut forcément consulter, bien faire consulter les personnes atteintes de l'albinisme chaque trimestre. Et pour les yeux également, dans l'année, on peut avoir deux consultations. On arrive à organiser des consultations dermatologiques avec le cabinet dermatologique Zana. Le cabinet est privé, donc ce qui signifie qu'il n'y a pas de garantie. Ce à quoi nous aspirons, c'est vraiment un système formel, durable, de prise en charge. Donc tout cela, jusque-là, vraiment, ça n'a pas été mis en place.
Comme contribution à l'amélioration des conditions de vie des albinos du Niger, le dermatologue Ousmane Konaté a gratuitement ouvert les portes de son cabinet pour les consultations des personnes atteintes de l'albinisme.
On a pratiquement reçu tous les albinos et on a fait l'examen sommaire de la peau et toutes les lésions qui sont sur la peau ont été traitées. Et celles qu'on peut traiter, ceux qui ne sont pas transformés en cancer. Et ils ont reçu des crèmes protectrices qu'elle a pu avoir, qu'elle leur a donné de façon gracieuse. Donc c'est surtout la prévention. Et la prévention, c'est éviter le soleil, porter des vêtements longs, porter des chapeaux, et également des lunettes protecteurs et surtout éviter, apprendre aux enfants de ne pas jouer comme les autres enfants au soleil.
Maladie congénitale due à un manque de mélanine, l'albinisme est bien présent au Niger. Il n'existe cependant pas de statistiques sur sa prévalence. L'association que dirige Khadija Moumouni a tout de même pu dénombrer une soixantaine d'albinos dans la capitale nigérienne. Abdoulaye Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Salut, c'est Nathalie Barge. Juste un petit mot pour vous rappeler de ne pas manquer Le Monde au féminin à 19h, temps universel sur VOA Afrique. Ce mardi, nous parlerons de la santé des femmes et des enfants dans les crises humanitaires avec Karine Kaneza, porte-parole du mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Le Monde au féminin, c'est tous les mardis à 19h, temps universel, en direct sur la page Facebook de VOA Afrique et en rediffusion le samedi à la même heure. À tout à l'heure.
À tout à l'heure, Nathalie. Au Bénin, plusieurs sociétés d'État pourraient être privatisées. Pour le gouvernement de Patrice Talon, cette politique vise à restaurer et remettre sur les rails ces sociétés dont la plupart vivent une situation financière difficile. Les syndicalistes voient d'un mauvais œil cette volonté manifeste du gouvernement à mettre en concession ces sociétés dans des conditions qui, disent-ils, ne respectent pas les normes prévues dans ce cadre. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
Encore une autre décision du gouvernement de Patrice Talon perçue par les Béninois, surtout les syndicalistes, comme une trahison totalement en désaccord avec les promesses électorales. En effet, depuis quelques jours, l'actualité au Bénin est marquée par l'annonce de la mise en concession de certaines sociétés d'État. Il était déjà reproché au gouvernement sa gestion aveugle et son insensibilité face aux plaintes des populations qui créent chaque jour misère et chômage. Basilia Oudjoubé, secrétaire général du Centra-CNHU, s'insurge contre la mise en concession du plus grand hôpital du Bénin et appelle les travailleurs à se mobiliser pour sauver le gagne-pain.
Qu'on l'appelle mise en concession, privatisation, mise en gérance, qu'on l'appelle à fermage ou toute autre chose, ça concourt à la privatisation du CNHU. Oui, le secteur de la santé a besoin de réformes, mais non au bradage, non à la mise dans la rue des pères et des mères de famille. Non, non et à jamais non.
Son collègue Théophile Dossou du même secteur voit de mauvais œil cette volonté manifeste du gouvernement à confier la gestion des sociétés d'État aux particuliers, qu'ils soient nationaux ou étrangers.
Comment cette jeunesse qui aujourd'hui est bardé de diplômés, qui n'a pas l'emploi, comment peut-on permettre encore que des retraités viennent travailler à leur place?
Sem Michel Amadidje est un expert certifié en audit interne. Après avoir expliqué que la mise en concession, contrairement à ce qui est ventilé de part et d'autre, ne saurait être perçue comme un bradage du patrimoine national, a tout de même émis quelques inquiétudes quant à la procédure qui permettra de mettre en concession ces entreprises.
Lorsqu'un repreneur privé reprend une entreprise, c'est d'abord les salaires qui souffrent. Parfois, il y a des licences. Donc je pense que l'État doit faire très attention, déjà dans le contexte où nous sommes, où il n'y a pas d'emploi, où il y a la morosité économique, l'État doit faire très attention à ce que la ressource humaine soit maintenue en place.
Les syndicalistes dans tous les secteurs se mobilisent et appellent le peuple à se lever pour exiger du gouvernement de la clarté dans la gestion publique.
On a constaté que ce gouvernement continuait pas à faire ses réformes comme si le Bénin était une entreprise privée. C'est seulement que les travailleurs se mobilisent et que le peuple se mobilise pour faire échec à cette gouvernance désastreuse qui enlise le peuple dans la misère et qui aggrave sa situation par, disons, la resurgence d'un certain nombre de taxes et d'impôts qui asphyxient le pouvoir d'achat et amenuisent le panier de la ménagère.
Il faut dire que plusieurs actions sont prévues dans les prochains jours par les centrales syndicales pour dénoncer le silence du gouvernement sur les urgences de l'heure et l'absence prolongée et injustifiée du président Patrice Talon du territoire national n'arrange pas les choses et laisse enfler la polémique sur la gestion sans boussole et sans un plan convaincant du pays. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Dans Washington Forum ce jeudi, on fait l'état des lieux des services d'urgence en Afrique. Du Sénégal au Cameroun, les problèmes se ressemblent. Taux de mortalité, manque de matériel et prise en charge des services d'urgence des hôpitaux en ville ou en province. Pourquoi tant de mortalité? À quoi ressemblent les formations des urgentistes? Quelle politique de santé pour gérer les urgences? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel avec Tatiana Mosso et ses invités.
Près d'un tiers de la population mondiale est obèse ou en surpoids selon une étude publié hier par The New England Journal of Medicine. L'obésité augmente partout dans le monde. En Afrique du Sud, elle touche désormais un adulte sur trois. Cette augmentation mondiale de l'obésité inquiète les experts car le surpoids est aussi responsable de maladies cardiovasculaires, du diabète et de certains cancers. Pour en savoir davantage, Claire Morin-Gibourg a joint à Lomé le diabétologue Dr Raymond Kossi-Baroué.
Il y a beaucoup de problèmes d'obésité de plus en plus chez les Africains à cause d'une amélioration, si je peux dire, de l'alimentation qui est devenue plus riche qu'avant.
Est-ce que vous pouvez nous préciser quel type d'alimentation provoque ces nouveaux cas d'obésité?
Disons que l'alimentation au Togo est surtout basée sur les féculents. Et à l'époque, je peux dire que l'alimentation, même si elle était toujours basée sur les féculents, était accompagnée de beaucoup de feuilles alimentaires. Et aujourd'hui, le riz est en train de supplanter, si on peut dire, le maïs qui était l'alimentation de base. Or, le riz est beaucoup plus hyperglycémiant et expose plus à la tendance d'obésité que le maïs. On a l'impression que l'Africain, vers la quarantaine, a une tendance beaucoup plus importante à avoir du surpoids, quand bien même il n'y a pas de preuves génétiques à ce propos-là. Il y a également une augmentation de la sédentarité. Ce sont ces facteurs qui augmentent l'obésité.
Est-ce que l'obésité est également influencée par ce que je qualifierais de facteurs culturels ?
Véritablement, oui. L'obésité n'est pas vue comme une anomalie pour ce qui concerne le Togo. L'obésité est vécue un peu comme une forme d'aisance, comme quelqu'un qui s'alimente mieux du fait qu'il a un travail de bureau, pour les hommes comme pour les femmes.
Comment vous luttez contre l'obésité dans votre travail médical au jour le jour ?
Disons que l'obésité ouvre un boulevard, si on peut s'exprimer ainsi, à l'éclosion du diabète, qui lui-même est en train d'augmenter de par le monde et augmentera également au Togo. Vu l'importance du diabète qui est évaluée dans une étude en date de 2010, qui est de 2,6% de la population togolaise, on a beaucoup de diabétiques avec surpoids ou avec obésité. Et moi, dans mon quotidien, la bataille, si on peut dire, contre l'obésité, est d'abord étudiée par rapport au diabète. En évitant l'obésité, on limite l'éclosion du diabète. J'utilise donc le diabète comme argument pour inciter la population à éviter l'obésité.
Le docteur Raymond Kossi-Barué, joint à Lomé.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Retour sur la crise diplomatique entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Le Niger, le Sénégal, le Tchad ont rappelé leurs ambassadeurs à Doha et la Mauritanie a rompu ses relations avec le Qatar. Mais des pays comme le Maroc proposent plutôt leur médiation. Comment expliquer ces réactions? Morgane Guiriec a joint Babacar Samb, ancien ambassadeur du Sénégal en Égypte et professeur d'arabe à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.
Des pays africains qui veulent exprimer leur solidarité avec l'Arabie Saoudite, compte tenu du dernier sommet que le président des États-Unis qu'il a tenu donc à Riyad, où beaucoup de chefs d'État africains et arabes étaient invités, avait beaucoup influé sur la position de ces États. Mais je pense que dans l'ensemble, ces pays-là entretenaient aussi des relations correctes avec le Qatar et non pas des différences particuliers qui pourraient expliquer donc leur position de défiance.
Quel intérêt ont-ils à soutenir l'Arabie Saoudite?
Tous ces pays-là, c'est des pays de forte population musulmane. Et l'Arabie Saoudite, pour les pays musulmans, c'est un symbole que aussi l'Arabie Saoudite est un pays qui a beaucoup aidé financièrement dans les investissements de développement. Sur le plan géostratégique, les relations particulières entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, ces pays-là également ont voulu renouveler leur amitié avec les États-Unis.
Le président guinéen Alpha Condé, qui est président de l'Union africaine, appelle au dialogue et offre sa médiation afin de trouver une solution pacifique.
C'est une manière de nuancer un peu donc les positions exprimées par les pays qui ont rompu ou qui ont appelé leur ambassadeur. Concernant les déclarations du président Macky Sall, eh bien, le président a appelé à la désescalade. C'est véritablement une manifestation de solidarité avec l'Arabie Saoudite, mais il ne faut pas l'interpréter comme une hostilité à l'égard de Qatar, parce que la plupart de ces pays ont des relations économiques, comme le Sénégal, par exemple, avec le Qatar.
Alors, l'Union africaine qui propose sa médiation, est-ce que c'est juste une déclaration de bonne intention ou peut-elle vraiment influencer cette crise?
Oui, moi je pense qu'effectivement ça peut influencer dans la mesure où les intérêts de l'Arabie Saoudite en Afrique sont immenses. Si l'Arabie Saoudite veut continuer à garder sa suprématie sur le continent africain, il devrait écouter le continent africain.
C'est la fin de cette édition. La mise en onde de Lionel de Runanira Gahima, la console Mr. Bill Birdburn, à la présentation Eric Manirakiza. C'est C'est ici que nous mettons fin à cette édition. À tout à l'heure.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.